Que le Seigneur soit loué et remercié pour le privilège que nous avons d'être ici, pour adorer, pour être béni à nouveau et pour entendre la parole du Seigneur. Il viendra un temps où l'on ne pourra plus l'entendre. Et alors, les gens voyageront encore plus loin qu'ils ne le font aujourd'hui, d'une mer à l'autre. Ils la chercheront. Et le prophète Osée dit qu'ils ne la trouveront plus. Plutôt Amos 8, verset 12. Aujourd'hui, elle est là. Aujourd'hui, quiconque se laisse trouver par Dieu peut la trouver. La parole de Dieu n'est pas n'importe où. La parole de Dieu est là où Dieu lui-même peut parler. Là où il nous parle lui-même, par sa parole. Nous avons devant nous les jours particuliers que nous connaissons sous le nom de Pâques. Et il me tient à cœur de vous dire à tous que nous commémorons ces jours d'une manière particulière dans la prière devant le Seigneur. Et que nous ne nous contentons pas de prier, mais que nous croyons aussi. Que nous croyons ce pourquoi nous prions. Que Dieu l'accorde. Une prière sans croire que Dieu fait ce que l'on demande n'a aucun effet. C'est une perte de temps. Celui qui veut venir à Dieu doit croire qu'il est là. Il doit croire qu'il récompensera celui qui vient à lui et qu'il recevra ce qu'il demande. Il me tient à cœur que le Seigneur reçoive ce qui lui revient de plein droit, arrive à ses fins comme jamais auparavant, que tout ce qui vient de l'ennemi doivent s'effacer, se retirer, et que tout ce qui vient de Dieu puisse prendre place, voire occuper toute la place en nous. Nous avons entendu tant de paroles de Dieu que nous avons ainsi pris une grande responsabilité. Et alors que j'étais assis là, cette pensée m'est venue. Aux yeux des gens qui toujours sont en train de trier et de chercher, la question surgit, pourquoi ces personnes se sont-elles spécialisées dans ce domaine? Pourquoi ne peignent-ils pas sur plusieurs moulins? Pourquoi ne s'inspirent-ils pas de tous les évangélistes, de tous les mouvements et de tout ce qui existe sur terre? Pourquoi se sont-ils attachés à cette seule cause? C'est une question tout à fait légitime qui surgit en eux, sur nous. Mais bien aimé, la réponse à cette question est si facile. Si simple. La pensée m'est venue, tous les autres peuvent prêcher sur Moïse et dire « Dieu lui est apparu dans la colonne de feu et Dieu a fait ceci et cela. » Mais alors nous remarquons que Dieu avait un homme qui pouvait non seulement dire Dieu est apparu à Moïse, mais qui pouvait témoigner, le même Dieu m'est apparu de la même manière. C'est ça la différence à l'échelle du ciel. À quoi cela nous sert-il de pouvoir dire « Saul a eu une telle rencontre avec le Seigneur autrefois et a été mandaté » et ensuite combien de milliers de sermons ont été prononcés à ce sujet, oh là là. Et tout d'un coup, un homme du 20e siècle peut dire le même Seigneur m'est apparu, m'a parlé et m'a révélé sa parole et sa volonté. Alors tout de suite, les choses deviennent tout à fait différentes. Il ne s'agit plus alors du passé qui doit être transformé en présent, mais de la présence de Dieu dans laquelle tout le passé est divinement illuminé. Et c'est bien de cela qu'il s'agit en ces jours. C'est la différence entre tous les évangélistes, tous les mouvements, tout ce qui est fait et ce que Dieu a fait lui-même. Dans ce temps, au jour du Seigneur, tous les scribes pouvaient parler d'Ésaïe, de chaque prophète et donner leurs interprétations. Mais, à la même époque, un homme envoyé par Dieu s'est présenté, a apparu. Il n'a pas interprété, il faisait partie intégrante lui-même de ce que Dieu faisait autrefois. Et il a ouvert la voie au Seigneur. C'était la grande différence. La différence ne résidait pas dans le fait qu'il n'avait pas de longue robe ou de col retourné, qu'il ne sortait pas d'un séminaire, qu'il ne se produisait pas dans le temple ou dans la synagogue, ou même qu'il portait une peau de chameau. La différence résidait dans l'envoi divin direct, dans le mandat par lequel la parole de Dieu s'accomplissait ici-bas, parmi le peuple de Dieu. Est-ce différent aujourd'hui? S'agit-il d'appliquer un critère pour déterminer comment l'homme est habillé, quel est son niveau d'éducation et autre chose de ce genre? Ou bien devons-nous appliquer des critères divins dans le royaume de Dieu? Et c'est de cela qu'il s'agit. Dans le royaume de Dieu, il faut appliquer des critères divins. Et nous reconnaissons que la voix du Seigneur est toujours simple, mais dynamique, et qu'elle apporte justement à tous ceux qui marchent sur cette voie tout ce que Dieu a à leur donner. C'est pourquoi, si nous nous sommes accrochés à la parole du Seigneur ces jours-ci, ce n'est pas parce que quelqu'un s'est présenté, mais parce que Dieu le Seigneur a parlé simplement. Et parce que ce ministère était lié à un mandat divin, un envoi divin. Nous avons remarqué que nous avons été conduits dans la parole. Non pas des conversations sur la connaissance de tel ou tel type, mais simplement des paroles de Dieu, la révélation de ses mystères. Sa volonté a été manifestée et nous pouvons prier de tout notre cœur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsque je réfléchis à toutes ces choses, je suis reconnaissant dans mon cœur. Reconnaissant que Dieu ait fait entendre au milieu de toutes ces voix la voix claire de sa parole et de son esprit. Et tous ceux qui sont de Dieu l'écouteront, car c'est ainsi que c'est écrit. Et ils sauront que ce n'est pas un homme qui a présenté sa connaissance, que ce n'est pas un homme qui est venu avec son enseignement, mais que nous avons tous été enseignés par Dieu et que la connaissance de Jésus-Christ nous est apparue sur la face de Dieu. Oui, que les choses dont il s'agit nous ont été éclairées, révélées. Vous connaissez les voies de Dieu. J'ai apporté aujourd'hui le sermon dont j'ai parlé hier soir. Nous pourrions nous plonger dans chaque pensée lue ici, dans le psaume 118. Chaque verset a quelque chose à nous dire, y compris le verset 24, psaume 118. Voici le jour que le Seigneur a fait. Poussons des cris de joie et réjouissons-nous en lui. Si l'on lisait le verset précédent, les versets 22 et 23, on se demanderait sur quoi doit-on se réjouir ici. Je vais vous lire ces deux versets. Verset 22, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire. Verset 23, c'est du Seigneur que cela est venu, un prodige à nos yeux. Écoutez, un paradoxe pour la compréhension humaine. Les bâtisseurs ont rejeté la pierre angulaire, mais ils ont construit avec zèle, sans pierre angulaire. Et ensuite, il est dit, au verset 24, « Voici le jour que le Seigneur a fait. Poussons des cris de joie. Et réjouissons-nous en lui. » À propos de quoi? De ce que les bâtisseurs ont rejeté la pierre angulaire? Non. De ce qu'il y avait des âmes précieuses de Dieu qui ne faisaient pas partie des bâtisseurs, qui se sont laissés assembler par le Seigneur pour former l'Église, dont cette pierre angulaire est devenue pour eux précieuse et qui sont elles-mêmes ajustées pour former un édifice de Dieu. Assemblées, ajustées pour former un édifice de Dieu. Il faut pourtant le voir. Celui qui n'a pas ouvert les yeux spirituels pour l'intelligence seule, si on le lit ainsi, ce serait presque insupportable. Au verset 22, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Ensuite, au verset 23, c'est du Seigneur que cela est venu, un prodige à nos yeux. Voici le jour que le Seigneur a fait. Crions de joie et réjouissons-nous en lui. Verset 25, sauve, ô Seigneur, fais que cela réussisse. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous vous bénissons de la maison du Seigneur. Toutes ces paroles sont si précieuses, si merveilleuses. Et nous voyons la même chose dans ces jours. Tous ceux qui étaient déjà au milieu de la construction, en train de construire, ils construisent. Chacun à sa propre cause. Les uns à leur dénomination, les autres à leur assemblée ou paroisse ou communauté religieuse, les autres au Conseil mondial des Églises, et où que les fils puissent tous aller partout, on construit et on bâtit. Et notre Seigneur parle simplement. Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Le Seigneur a désigné les prophètes pour qu'il révèle sa parole sur terre et fasse connaître ainsi sa volonté à l'avance. Il a désigné les apôtres pour porter et annoncer la volonté révélée de Dieu. Mais la rédemption de l'Église, l'appel à sortir de l'Église, l'édification de l'Église, l'achèvement de l'Église, L'enlèvement de l'Église, tout ce qui a trait à l'Église, le Seigneur se l'est réservé à lui-même. C'est lui-même qui le fera. Personne n'a racheté, personne n'a appelé à sortir, personne n'a construit, a bâti, personne ne ramènera, n'enlèvera. Lui, le Seigneur, lui-même fera tout ça. Et nous en sommes reconnaissants pour cela. Tous les prophètes et les apôtres doivent eux-mêmes attendre que sonne cette heure que le Seigneur a fixée pour tout, y compris pour le jour où l'Église de Jésus-Christ sera enlevée à la maison. Ainsi, le Seigneur ne dit pas, Pierre, tu vas bâtir mon Église. Il n'a pas dit, Paul, tu bâtiras mon Église. Il dit, je bâtirai. Ou oui, je bâtirai mon Église. Et les portes, il dit mon Église. Et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Aujourd'hui, les gens construisent, bâtissent, mais ils construisent leurs propres églises, leurs propres assemblées. Et ainsi, nous ne pourrons pas tenir devant Dieu, à moins que nous ne nous laissions nous-mêmes insérés dans le programme divin, dans la construction, dans l'édifice de Dieu. Et cela n'arrive qu'en reconnaissant à notre époque ce que Dieu maintenant fait en accord avec sa parole. Dieu ne passera jamais à côté de sa parole. Dieu se référera toujours à sa parole et se souviendra de ses promesses. Ce verset aussi, le verset 27 du psaume 118, le Seigneur est Dieu. Il nous a donné la lumière. Alléluia. Louange à lui pour cela. Le Seigneur est Dieu. Il nous a donné la lumière. Et pas seulement il a donné la lumière. À quoi servirait-il s'il avait donné la lumière à 1000 personnes? Mais pas à toi, pas à moi, pas à nous. Il nous a donné la lumière. Il y avait ici encore une pensée glorieuse qui est toujours exprimée par cela au premier verset. Oui, sa grâce dure éternellement. Et au verset suivant, encore une fois, le verset 2, oui, sa grâce dure éternellement. Et dans le verset suivant, dans les trois premiers versets, la grâce de Dieu qui dure éternellement est mise en évidence. Notre Dieu est fidèle. Il accomplira ce qu'il a décidé de faire. Et si nous comprenons bien cette prédication de frère Branham, et c'est ce que je souhaite en premier lieu, et ensuite à tous mes frères et à toutes mes sœurs, la prédication avec le titre « Pourquoi crier parle ?» Si nous gardons à l'esprit et prenons à cœur ce qui est dit ici, nous devons dire au Dieu, aide-nous à ne pas prier pour des choses qui nous appartiennent déjà, qui font déjà partie intégrante du mandat divin et de la prédication. Ici, David est mentionné, Josué est mentionné, Samson est mentionné. Et ici, des choses sont énumérées en ce qu'il a été dit. Laissez-moi lire ici, citation, Josué a été oint pour prendre possession du pays pour Dieu et pour son peuple, Josué. Il y a là une pensée tout à fait glorieuse. La promesse de Dieu était avec le peuple de Dieu. L'heure de Dieu avait sonné. Il n'y avait plus rien d'autre à faire que d'accomplir avec foi ce que Dieu avait promis, c'est-à-dire d'entrer dans le pays et d'en prendre possession. De David, il est dit, Nathan, le prophète, n'a-t-il pas dit un jour à David, alors que David, le roi, oint était assis, il a dit, fais tout ce qui est dans ton cœur, car Dieu est avec toi. 1 Chronique 17, 2. David était oint par Dieu. Et si nous considérons ensuite l'histoire de sa vie, après l'onction, la fuite a commencé. Toute la catastrophe a commencé à s'abattre sur lui. Il a regardé la ville en pleurant et a dû faire un tel chemin que n'importe qui aurait pu se poser la question légitime. C'est ça l'onction. S'il avait été oint, s'il avait été désigné, il n'aurait pas eu besoin de prendre maintenant la fuite et de subir tout cela. L'un d'eux lui a craché au visage et vous connaissez tous l'histoire malgré l'onction. Mais dans son cœur, il savait. Après toutes les épreuves, après tous les chemins profonds, Dieu arrive à ses fins et reçoit avec lui et par lui ce qui lui revient de plein droit. Et je crois que nous le savons tous en tant qu'individus, nous le savons en tant qu'assemblée. Après toutes les épreuves, après les avoir surmontées et avoir retenu dans notre cœur la parole de Dieu qui nous a été donnée, nous aussi, nous verrons la victoire et la gloire de Dieu. Il a dit de Josué, il ne tomba pas à genoux en disant, « Seigneur, Dieu, que vais-je faire? Que vais-je faire ?» Il a parlé. Il avait une requête et il a dit, « Soleil, arrête-toi. » Il ne cria pas. Il commanda, « Soleil, arrête-toi. » Qu'est-ce que c'était? Il était sur le chemin de Dieu, avec le peuple de Dieu. Quelque chose devait arriver. Le soleil se couchait. Les ténèbres, l'obscurité serait arrivée. Le combat n'était pas terminé. Il avait encore besoin de lumière et de temps pour mener le combat victorieusement à son terme. Bien-aimés, le soleil de la grâce est sur le point de se coucher. La nuit tombe, dont notre Seigneur parle en disant qu'alors plus personne ne pourra agir. Que Dieu nous préserve, le soleil de la justice, qu'il brille au-dessus de nous jusqu'à ce que la bataille soit livrée et que la victoire se manifeste pleinement pour tout le peuple de Dieu, comme au jour de Josué. Le soleil doit alors rester tranquillement immobile tant que le peuple de Dieu va de l'avant. À quoi cela nous sert-il que le soleil se déplace ou que la terre tourne? Cela m'est égal comment c'est, mais nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. À quoi servirait-il si tout tournait et avançait et que nous restions sur place? À l'époque, le soleil s'est arrêté et le peuple de Dieu a avancé. Et nous avons besoin de la même chose aujourd'hui, par la grâce de notre Dieu, que nous reconnaissions. Nous sommes sur le chemin de Dieu et le Seigneur est avec nous parce que nous gardons sa parole et restons attachés à sa parole. C'est de Samson qu'il est question ici. Samson, aussi, il est question de lui. Samson, qui avait été oint et établi par Dieu, à qui le don de puissance avait été donné, il se présenta. Il était destiné à détruire la nation des Philistins. Il était né sur terre pour cela. Il était destiné et oint par Dieu. Un jour, pardon, je voudrais lire exactement la citation. Un jour, Je vais lire attentivement. Oui, ici, il se peut qu'une page ne soit pas bien classée. On ne s'en rend compte qu'en lisant. Oui, tout à fait. Bon, d'accord. Mais maintenant, tout est toujours vérifié de manière à ce que cela ne puisse plus arriver. Le contexte manque à la page suivante. Oui. Je suis désolé. En tout cas, il a pris une mâchoire d'âne et a tué 1000 Philistins d'un coup avec celle-ci. Aujourd'hui, si quelqu'un prend une vieille mâchoire d'âne qui se trouve quelque part dans le désert et la frappe une fois, il est en 1000 lambeaux, mais il ne tue pas 1000 personnes. Et à l'époque, parce que Dieu était avec lui, parce que Dieu l'avait chargé, l'avait appelé, parce que Dieu l'avait désigné, il a pris cette mâchoire d'âne et a frappé, et Dieu l'a confirmé. De Josué, il est dit ici, Josué savait qu'il allait prendre possession du pays. Il était confirmé. La parole de Dieu le promettait. Et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit était là-bas pour le confirmer. Il se trouvait sur son chemin et rien ne pouvait se mettre en travers de son chemin. Voici maintenant une phrase qui nous rappelle mercredi soir, lorsque nous avons parlé de Luc 10, que les 70, les 70 sont revenus et se sont réjouis de ce que le Seigneur était avec eux et les a aidés. Et le Seigneur dit là-bas, rien ne pourra vous nuire. Luc 10, 19. Il est dit ici, il a été oint pour l'œuvre. Rien ne pourra vous nuire. Non, pas une seule chose. Alléluia. Si nous sommes dans la voie de Dieu et que le Seigneur est avec nous, que vienne ce que l'on veut, toutes sortes d'épreuves, quelles qu'elles soient, même si pour l'instant, on a l'impression qu'il y a un grand dommage. Et frère Rousse l'a déjà mentionné à propos de la crucifixion. Extérieurement, tout s'est présenté très différemment. Extérieurement, l'affaire semblait terminée. Livrée honteusement au blasphème, toute la population était agité, était en émoi. Il y avait les scribes, les chefs des sacrificateurs, tout le peuple, tout l'enfer, tout le peuple d'Israël et les païens, tout cela grondait et s'agitait. Un seul était calme. C'était notre Seigneur. Et qu'est-ce que ses disciples ont pu ressentir en voyant leur Seigneur et maître, cloué là-bas, aussi impuissant qu'il le semblait, aussi impuissant qu'il le semblait, sur la croix. Ils étaient là-bas, les disciples, eux qui avaient été enthousiasmés par lui, qui l'avaient suivi pendant plus de trois ans, qui avaient tout laissé derrière eux. Et maintenant, ils voyaient leur maître. L'accusation qu'ils étaient nés hors mariage et ceci et cela, ils avaient dû endurer beaucoup de choses. Mais maintenant, l'heure et la puissance des ténèbres arrivèrent et tout se gâta. L'Écriture dit que les disciples se sont dispersés. Pierre, qui se tenait à distance, eut aussi très chaud. Et il s'est même maudit en disant, « Je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. » Nous lisons tout cela aujourd'hui. Mais pouvons-nous nous mettre à la place de ce qui se passait là-bas, dans les derniers jours avant la crucifixion? Est-ce que quelqu'un dormait encore? Est-ce que quelqu'un d'eux avait dormi? Tout était sans sens, sans dessus, dessous. Tout l'enfer se déchaînait et toute l'humanité était en mouvement. Et il semblait que Dieu se taisait. Il n'intervient pas. On se moque de lui. Il a aidé les autres. Il ne peut pas s'aider lui-même. Si c'est toi, descends de la croix. Et ainsi de suite. Que s'est-il passé? Les disciples ont été bouleversés intérieurement. Ils ne pouvaient plus faire la part des choses. Ils ont pris la fuite. Ils se sont dispersés. Ou encore un Joseph d'Arimathie dont on ne lit rien auparavant, qui vient demander le corps pour qu'on le mette au tombeau. Bien-aimés, Dieu n'a même pas permis à un Pierre de dire ensuite, « Après tout, c'est moi qui ai mis le Seigneur au tombeau. » N'est-ce pas? Dieu prend toujours qui il veut. Il fait ce qu'il veut. Au milieu de tout cela, Dieu a eu son plan pour l'humanité et nous a rachetés. Nous demanderions, fallait-il que la rédemption se fasse avec un tel tumulte? Avec un tel tumulte? Fallait-il que la rédemption se fasse ainsi? Qui sommes-nous? Devons-nous être les conseillers de Dieu? Puis il arriva encore, lorsque notre Seigneur fut crucifié, que le soleil s'obscurcit et qu'il fit nuit sur la terre, à partir de la sixième heure. Les rochers se fendirent, un tremblement de terre se produisit. Tout était en mouvement. C'est au milieu de tout cela que Dieu a fait l'histoire du salut. Au milieu de tout ce qui se présentait aux hommes comme un désordre, Dieu le Seigneur a ainsi accompli une rédemption valable éternellement. Au milieu de tout ce qui se présente aux hommes comme un chaos, Dieu appellera une épouse glorieuse et la préparera pour le jour du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Les voies de Dieu sont très différentes des nôtres et ses pensées sont très différentes des nôtres. Ici, nous avons encore énuméré quelque chose que Frère Branham a trouvé particulièrement importante dans ses expériences. Il énumère ici quelques-unes des choses que Dieu a faites, puis il dit, c'est lui qui a donné la vision il y a un an et qui a dit que nous irions là-bas à cause des sept sceaux, qu'un fort tonnerre l'annoncerait. Deuxièmement, c'était lui le soir où je marchais le long du chemin et où j'ai vu le grand serpent qui était sur le point d'attraper mon frère. Il m'a dit, il t'a été donné la puissance de les lier, eux et toute autre espèce. C'est aussi lui qui a dit cela à ma petite femme aux cheveux gris, assise là-bas. C'est lui qui m'a réveillé ce matin-là, dans cette pièce, debout dans un coin, se tenant et qui m'a dit, « N'aie pas peur de faire quoi que ce soit, d'aller quelque part ou de dire quoi que ce soit, car la présence jamais défaillante de Jésus-Christ est avec toi où que tu ailles. Bien-aimés, nous avons la promesse que le Seigneur sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais lorsque cela est dit de manière si personnelle à quelqu'un, et ce, dans la pièce où il se trouvait et où il écoute, seul, celui qui a vécu une expérience similaire peut mesurer ce qui se passe alors dans l'esprit d'une telle personne. Il y a une certitude, une assurance et plus encore. La certitude divine est dans la parole de Dieu. Mais nous allons un peu plus loin. S'il y a un absolu dans la parole du Seigneur, une certitude absolue, s'il me le disait à moi ou à toi, comme il l'a fait à Moïse ou à n'importe quel homme de Dieu, à Frère Branham, à Paul, peut-être, peu importe qui c'était, s'il y a une telle certitude absolue dans la parole de Dieu, que faisons-nous alors de toute la Bible? N'est-elle pas la parole de Dieu? Tout n'est-il pas écrit? Tout n'a-t-il pas été inspiré par l'Esprit de Dieu? Oh, quelle certitude devrait nous pénétrer? Quel absolu devrait remplir notre âme de savoir Dieu a dit cela? Et comme il a dit, c'est ainsi, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Plus loin, il est dit ici, c'est lui qui, il y a environ 3 mois, alors que j'étais en prière et que je me demandais ce qui allait arriver, alors que je me tenais là, c'est lui qui a mis une épée dans ma main et a dit, ceci est l'épée du roi. C'est lui qui m'a dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Oh, si on continuait à ce registre ici, vous pouvez tous le faire pour vous, même chez vous à la maison. Tout ce qui est énuméré ici, c'est lui qui, il y a 30 ans, quand j'étais un garçon, et que je me tenais là comme un petit prédicateur au bord de la rivière, il y a 30 ans, quand la lumière, cette colonne de feu, est descendue du ciel, il se tenait lui-même là, et il a dit, comme j'ai prédit que Jean-Baptiste, à la première venue de Christ, viendrait, ainsi ton message précédera la seconde venue dans le monde entier. Nous pourrions continuer, il l'était, il ne l'était pas seulement, il l'est aujourd'hui. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Nous n'avons pas suivi des fabuleux conçus quand nous vous avons annoncé la puissance et le retour de Jésus-Christ, mais la parole révélée, la parole prophétique, c'est elle que nous avons suivie. Et la parole de Dieu demeure éternellement. C'est le même Seigneur qui a parlé à Abraham, à Isaac et à Jacob, à tous les prophètes, à Moïse, jusqu'au Nouveau Testament. C'est le même Seigneur qui a eu dans cette génération une armure d'élection, notre bien-aimé frère Branham. Et nous l'estimons comme nous estimons Paul, et comme nous estimons Pierre, comme nous estimons de tels hommes que lui, notre Dieu, a pris et utilisé pour parler lui-même à son peuple. Nous ne pratiquons pas le culte de l'homme, nous rendons gloire à Dieu, mais en reconnaissant ce qu'il a fait. Ses décisions sont toujours justes. Au jour des apôtres, personne n'a rendu un culte à Paul s'il croyait ce que cet homme annonçait. Bien au contraire, en agissant ainsi, l'intéressé ne faisait que prouver qu'il respectait l'ordre et la décision. Donc, l'ordre divin et la décision divine. Celui qui, dans cette génération, passe à côté de ce que Dieu a dit, clairement et en accord avec tous les apôtres et prophètes, doit s'entendre dire qu'il passe à côté de Dieu et de ce qu'il fait. Il n'y a pas de possibilité d'être en règle avec Dieu, d'être en ordre avec Dieu, sans se laisser soi-même insérer dans l'ordre divin. Que le Seigneur soit avec nous et nous bénisse, qu'il ouvre nos cœurs, nos oreilles, nos yeux, tout, pour que nous puissions entendre, pour que nous puissions voir, pour que nous puissions vivre ce que Dieu nous a promis pour ce temps. Le prophète de l'Ancien Testament dit ainsi, la voix de Dieu passe par des intempéries. Naoum 1, verset 3. Il peut y avoir de l'impétuosité, de l'intempérie, tant que c'est la voix de Dieu. Suivons cette voix de Dieu. N'attendez pas que tout le monde nous parle bien et nous comprenne. Bien au contraire, les choses vont empirer avec les malentendus et tout ce qui suit, tout ce qui s'ensuit. Mais tant que Dieu nous aidera, nous marcherons sur son chemin. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que nous soyons avec tous ceux à qui sa parole a été adressée, ensemble avec eux dans la gloire. Et remercier le Seigneur d'avoir envoyé de tels hommes et d'avoir eu des personnes qui ont écouté ce que Dieu a dit à travers eux. Le Seigneur cherche de tels hommes, pas des gens qui savent tout et toujours mieux les choses que les autres, mais des gens qui peuvent s'humilier sous sa main puissante. Et c'est ainsi que Dieu nous révèle son salut. C'est le chemin pour que Dieu nous révèle son salut et que nous pouvons ainsi le louer. L'humilité n'est pas dans la nuque, elle est dans le cœur. Et si elle est là, nous trouverons grâce devant Dieu. Car il est écrit, c'est ainsi que c'est écrit que le Seigneur fait grâce à l'humble et héroïque. Et fait réussir celui qui est droit. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il bénisse avec nous son peuple d'adorateurs. Quel privilège de nos jours d'entendre la parole claire de Dieu et de nous, et de se laisser conduire par cette parole éternelle. Que le Seigneur soit avec nous tous. Amen. Louange et merci au Seigneur. Je suis heureux pour toutes ces précieuses paroles de Dieu que nous avons pu entendre à nouveau par grâce. Et je crois que nous ne devrions pas seulement les entendre, mais aussi les méditer et aller de l'avant pour comprendre ce que Dieu veut dire, ce qu'il veut nous dire. Car Dieu nous veut du bien et veut que nous soyons attentifs à sa parole et aux instructions qu'il nous donne à nous son peuple. Nous sommes son peuple. Nous sommes ses élus. Oui, en effet, il nous a apporté la lumière. S'il n'en était pas ainsi, la situation serait différente. Mais parce qu'il a apporté la lumière, et cela est devenu très grand pour moi, c'est pourquoi tout est arrivé ainsi. Et c'est pourquoi tout doit arriver ainsi. Beaucoup de choses doivent peut-être être considérées comme un désordre aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, tout est merveilleux. C'est le jour que le Seigneur a fait. Oui, chers frères et sœurs, et si les hommes ne le comprennent peut-être pas, mais que Dieu nous fasse la grâce d'ouvrir nos yeux et notre compréhension à ce qu'il fait. Pas à ce que font les hommes, mais à ce qu'il fait. C'est mon désir profond et ma prière. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes heureux qu'il continue à avancer, qu'il parle aux gens et qu'il envoie à nouveau des gens. Nous ne sommes pas en mesure de faire venir des gens et nous ne le souhaitons d'ailleurs pas, mais notre désir est que Dieu les envoie. Et s'il les envoie, il préparera aussi la bonne nourriture et tout ce qui est nécessaire à cet effet. Nous l'avons appris, le Seigneur est capable de tout faire. Il peut tout faire. Il est le Seigneur. Et quoi qu'il arrive, nous sommes entre ses mains et il fera tout pour nous. Que son nom soit honoré pour cela. Maintenant, offrons-lui notre adoration. Levons-nous pour cela. Père céleste, nous remercions encore ensemble pour ta sainte et précieuse parole, pour toutes ces précieuses pensées, Seigneur, pour la lumière que tu as apportée à notre époque. Ô Seigneur, tu nous as éclairés, nous t'adorons, nous louons ton nom glorieux et nous te prions d'en éclairer encore beaucoup. Ô Seigneur, accorde ton salut à beaucoup encore, en particulier pour les jours qui nous attendent, Seigneur, lorsque nos chers frères et sœurs viendront, ainsi que des personnes, Seigneur, qui n'ont pas encore tout à fait saisi. Tu veux que tu puisses être miséricordieux, Seigneur, et que tu puisses aider, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, et nous t'adorons. Bénis-nous et avec nous tout ton peuple, Seigneur, et partout dans tous les pays, Seigneur, dans toutes les nations, dans tous les peuples et dans toutes les langues. Seigneur, que tu puisses donner au-dessus de ce que nous puissions demander et penser, Seigneur. Seigneur, nous voulons ainsi louer ton nom et t'exalter, car tu es un Dieu éternel. Tu es un Dieu d'éternité en éternité, Seigneur, de génération en génération. Seigneur, tu n'as pas encore changé. Seigneur, tu es toujours resté le même. Seigneur, toi qui étais avec Moïse, avec Abraham et avec tous les prophètes, Seigneur, tu es aussi avec nous en ces jours, Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, tu as toujours agi d'une manière merveilleuse et tu as eu des voix merveilleuses, Seigneur, avec ton peuple. Même si parfois, Seigneur, il semblait que tout était fini, Seigneur, mais ensuite tu as continué, Seigneur, et tu t'es fait connaître puissamment, même en nos jours. Seigneur, nous te remercions et nous t'adorons pour cela dans le précieux nom de Jésus. Alléluia, alléluia, à ton nom. Amen, amen.